Médicalement vôtre, l'éducation thérapeutique du patient, une émission proposée et animée par Fozia Zedam.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Médicalement Vôtre sur la radio 91 FM+. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du parcours des personnes atteintes d'une ou de plusieurs maladies chroniques. 20 millions de Français sont atteints aujourd'hui de maladies chroniques, autrement dit près d'un tiers de la population. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de consacrer cette émission à deux témoignages de patients qui vont nous raconter leur vie au quotidien avec la maladie. Comme dans l'ensemble des pays de la planète, nous enregistrons une épidémie de maladies chroniques et qu'on ne sait pas encore guérir. Diabète, obésité, hypertension, polyarthrite rhumatoïde, sida, asthme, insuffisance respiratoire, mucoviscidose, lupus, insuffisance rénale, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, insuffisance cardiaque, sclérose en plaques, cancer, etc. Malheureusement, la liste est très longue. Cette recrudescence de ces maladies est la rançon du vieillissement de la population et des dégâts environnementaux. Cette constatation est un vrai défi pour les chercheurs, pour tous les professionnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignantes, et paramédicaux, mais aussi un vrai défi pour les patients et leurs proches. La maladie chronique représente, pour ceux qui sont atteints, l'entrée dans une condition chronique, caractérisée par la durée et d'éventuelles aggravations. Certaines de ces affections longue durée, si elles sont bien prises en charge par le médecin et par le patient lui-même, permettent à celui-ci de mener une vie quasi normale. Pour d'autres, les patients souffrent et le poids de la maladie affecte plus ou moins gravement leur vie professionnelle, familiale, personnelle et sociale. Bonjour Johanna et
bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci Fozia.
Bonjour Robert et merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous remercie de m'avoir invité.
Donc, je vais vous demander, donc vous allez dans un premier temps donc vous présenter, hein, vous présenter votre pathologie, vous présenter. Et puis, nous aborderons donc les thèmes suivants tout au cours de l'émission. Le parcours donc avec votre maladie, comment vous avez vécu aussi le confinement, hein, c'est une chose qui est encore d'actualité. Votre participation à des programmes d'éducation thérapeutique, votre engagement, si vous avez des engagements associatifs ou au niveau des programmes d'éducation thérapeutique.
Ouais. Voilà.
Donc, on va peut-être commencer peut-être par Johanna. Hein, vous allez un petit peu nous dévoiler certaines choses de votre vie. Donc, on vous écoute, Johanna.
Bah alors, bonjour. Donc, je m'appelle Johanna, j'ai 44 ans, deux enfants. J'ai une spondylarthrite ankylosante. Alors, c'est pas très connu. C'est le deuxième rhumatisme inflammatoire après la polyarthrite rhumatoïde qui existe. Je l'ai su en 2014. Seulement, il y a eu quand même 7 ans d'errance dans le diagnostic. Donc, à peu près, j'ai dû commencer en 2007. Donc, c'est-à-dire que j'avais une trentaine d'années quand les problèmes ont commencé. Je vis avec cette maladie. Je suis passée par plusieurs étapes, évidemment, hein, parce qu'au début, on cherche à comprendre ce que c'est, pourquoi, comment, pourquoi moi.
Pourquoi moi, surtout. Oui.
Pourquoi moi. Donc, de la colère, mais vraiment plus de, chez moi, de l'incompréhension. Donc, j'ai commencé à beaucoup, beaucoup lire tout ce qui passait sur ce thème-là. Sachant que les médecins ont mis quand même 7 ans avant de trouver, déjà dans ma tête, il s'était passé beaucoup de choses aussi. Donc, fallait que je mette des mots sur tout ça. Et puis, petit à petit, j'ai appris à vivre avec. Mais évidemment, ça ne s'est pas fait en un an, hein, jusqu'à aujourd'hui. Et encore maintenant, j'essaye j'apprends encore à vivre avec.
Voilà. Et les symptômes de cette maladie ?
Alors, ils sont essentiellement articulaires. Dès le début, en fait, je ne comprenais pas pourquoi ma hanche me gênait à 30 ans, alors qu'il n'y avait rien aux radios de particulier. Donc, c'était essentiellement articulaire. Et comme j'avais pris beaucoup de poids, j'ai même fait une chirurgie bariatrique en me disant « ça va soulager mes problèmes d'articulation ». Et finalement, un an après la chirurgie, c'était revenu comme avant. Donc, c'était pas ça. Voilà, ça pouvait être les genoux, ça pouvait être les hanches, ça pouvait être le bas du dos. Bon, chez moi, ça s'est surtout localisé autour du bassin. Donc, en fait, voilà, avec des raideurs la nuit, réveillé très tôt le matin, par rapport à ces douleurs. Ça s'est manifesté comme ça, essentiellement au début, puis petit à petit, ça s'est développé un peu partout, on va dire, dans le corps.
Et lorsqu'on vous a annoncé, effectivement, l'annonce de cette maladie, est-ce qu'elle s'est fait... comment ça s'est passé ?
Alors, chez moi, c'était mitigé parce que, évidemment, qu'on n'est jamais très heureux d'apprendre ce genre de choses. Mais en même temps, quand vous avez passé 7 ans à chercher, enfin, il y a un mot. Donc, c'était aussi un peu une délivrance parce que ça voulait dire que, enfin, maintenant, j'allais pouvoir commencer à travailler quelque part sur le vivre avec, puisque je sais ce que c'est. Et comment je vais vivre avec et poser et donc pouvoir programmer des choses. Voilà.
Et puis d'avoir le traitement.
Et d'avoir un traitement, oui, tout à fait. Parce que jusque-là, c'était les anti-inflammatoires, mais pas plus, quoi. Donc oui, tout à fait. Ça a permis d'aller sur un traitement, ce qu'on appelle un anti-TNF, une biothérapie. Qui était tout nouveau à l'époque, moi, quand j'ai commencé, j'étais dans la nouvelle génération. Mm-hmm. Et donc, évidemment, ce sont des examens qui sont poussés avant de pouvoir mettre en place un tel traitement. Mais voilà, ça s'est très bien passé pour moi.
Et vous, Robert ?
Moi, je m'appelle Robert, j'ai 71 ans, j'habite à Aigues-Mortes, je suis marié, 3 enfants. Et j'ai une vie assez régulière avec des loisirs comme la marche, le vélo et puis les pathologies. Alors les pathologies, c'est compliqué parce qu'il y en a plusieurs.
Ah.
Je vais essayer de les énumérer un peu rapidement. Bon, en octobre 2003, j'ai commencé par quelque chose qui n'est pas chronique. C'est une prothèse totale de l'épaule. Pour la bonne raison, c'est qu'on voulait me faire des infiltrations. Et pour cela, il ne fallait pas être diabétique. Et alors, mon rhumatologue m'a demandé si je n'étais pas diabétique. Et je n'en savais rien. Donc, il m'a dit, il faut qu'on fasse des tests pour voir. Et c'est là qu'on a découvert mon diabète.
C'est un peu le hasard, malheureusement.
Ça a été le hasard, oui. Donc, on est parti avec ce diabète en 2003. Après, en juillet 2004, j'ai eu des polypes sur la corde vocale, avec 6 semaines de rayon. Là, jusqu'à maintenant, jusqu'au mois d'ici, j'avais pas eu de problème. Et il y a un mois et demi, ma voix s'est enrayée. Pourquoi ? Je ne le sais pas. Donc j'ai consulté l'ORL et il m'a dit que c'était dû au rayon que j'avais eu en 2004.
C'est une conséquence alors ?
Oui, c'est une conséquence.
D'accord.
Voilà. Après, en novembre 2006, on m'a trouvé une pancréatite auto-immune. Alors là, non plus, là ça a été un peu long, ça n'a pas duré 7 ans. Mais le diagnostic a duré du mois de juillet au mois de novembre, sans savoir ce que j'avais. Examen sur examen, tous les 15 jours. Et finalement, au mois de novembre, on m'a annoncé pancréatite auto-immune avec en plus une cholangite sclérosante sur le foie. Donc à partir de là, qu'ils ont su au mois de novembre, ils ont commencé à me traiter. Ça allait de mieux en mieux. Sauf que je suis arrivé en 2012 Et j'ai eu une leucémie lymphoïde chronique. Là, bien sûr, derrière chimiothérapie, pendant 6 mois, au bout d'un an, donc on a arrêté la chimiothérapie. Après, d'après le professeur, c'était guéri, mais au bout d'un an, c'est revenu. Deuxième chimiothérapie, qui a encore duré 6 mois. Et puis après, on a à nouveau arrêté. C'était très bien, mais c'est revenu. Là, il n'a pas voulu me faire une troisième série de chimiothérapie par perfusion. Et il a voulu, il me l'a faite par cachet. Et ce cachet, je l'ai pris 3 mois. Et au bout de 3 mois, j'ai eu une infection urinaire qui m'a complètement, comment vous dire,
Fatigué, épuisé.
J'ai été hospitalisé au MIT à Saint-Éloi. Et donc, ils n'ont pas trouvé ce que j'avais de suite. Ça a duré, les recherches ont duré 10 jours. Et pendant 10 jours, j'étais KO. Et quand ils ont trouvé, ils ont découvert que j'avais un champignon un peu bizarre, que tout le monde est porteur. Mais le fait de mes chimiothérapies avant, j'avais les globules blancs qui étaient très bas, les défenses immunitaires qui étaient pratiquement pas existantes. Et ça m'a donné ce champignon qui s'appelle le cryptococcus meningien. C'est-à-dire que c'est rentré dans le liquide cérébral au niveau de la colonne, c'est monté au cerveau et ça m'a déclenché des méningites. Oui.
Alors, la question qu'on pourrait se poser avec tout l'ensemble de ces pathologies, malheureusement, comment est organisé votre suivi médical? Est-ce que vous allez voir, pour chaque pathologie, vous avez un médecin attitré, enfin, un spécialiste?
Oui, oui.
Comment ça se passe
exactement? Oui, j'ai tout un spécialiste, donc... Pour le pancréas, j'ai le gastro-entérologue de Saint-Éloi. Pour la leucémie, j'ai un hématologue à Saint-Éloi. Le gastrologue, c'est à Beausoleil, pardon. Et puis après, pour le cœur, j'ai le docteur à Lunel. Je suis suivi, l'ORL est à Castelnau. À la clinique du Parc, j'ai tout mes docteurs différents.
Et dans ce suivi-là, avec des spécialistes différents sur votre pathologie, est-ce que les médecins entre eux se parlent
Oui.
Parce qu'il est évident que la prise d'un traitement est compliquée et il peut y avoir des répercussions sur l'autre traitement ou sur la pathologie ou l'autre pathologie qui a été découverte. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils se réunissent?
Ils
communiquent entre eux?
Ils communiquent entre eux par courrier.
Oui.
Et puis, dernièrement, c'est le docteur Coestier qui me suit pour le diabète, qui avait besoin de renseignements vis-à-vis des traitements pour savoir si elle pouvait me donner un nouveau traitement pour le diabète. Parce que et donc, ça communique très bien entre eux. Il n'y a pas de problème de ce côté-là.
D'accord. Et est-ce que vous avez pris contact avec des associations, avec une association de patients qui vous aiguille un petit peu dans tout ce parcours?
J'en ai pas trouvé encore la nécessité, parce que bon, au niveau familial, je suis très bien entouré. Au niveau moral, je peux vous dire que j'ai un moral très positif qui n'est pas...
Ça se voit, vous avez le sourire, Robert.
Et d'un autre côté, je suis suivi par tous ces médecins que finalement ont eu de très bons diagnostics, ont été très honnêtes avec moi, dans la mesure où c'est pas impossible qu'un des cachets... Alors, ils ne me l'ont pas affirmé, mais enfin, ils m'ont bien fait comprendre que peut-être un des traitements a déclenché la leucémie, que le traitement de la leucémie mélangé à d'autres traitements ont déclenché la cryptococcose. Bon, ils n'en sont pas sûrs, je n'ai pas fait de procès, je n'ai pas attaqué personne. Mais bon, il faut savoir que c'est très difficile de se faire soigner, mais Parce que mes catéchères, on est très bien soignés.
Et donc la relation avec vos médecins respectifs se passe bien. Enfin, vous communiquez avec eux, vous les questionnez, répondent à vos questions. Enfin, il y a vraiment un vrai dialogue, une vraie communication entre soignants et soignés. Là.
Voilà, et même conjoint.
Conjoint. Donc, votre femme est associée, effectivement.
Ma femme est associée parce que chaque fois que je consulte, elle est avec moi, c'est sûr. Et même maintenant, pendant la période du Covid, les docteurs ou professeurs ont accepté sa présence. Et elle a toujours été là pour écouter les diagnostics et tout.
D'accord. Et vous, Johanna, est-ce que vous... comment se passe effectivement la relation avec votre médecin qui vous suit pour votre pathologie?
Bon, moi, c'est un petit peu plus simple. J'ai moins de monde à voir, heureusement pour moi. J'ai un planning moins chargé. Donc, non, je vois ma rhumatologue deux fois par an et le médecin généraliste assez régulièrement. Donc... Bon, ça se passe bien dans l'ensemble. C'est vrai qu'il maintenant il s'envoie facilement par mail des courriers, des comptes rendus. Donc en général pour les traitements, voilà. Et quand ils ne savent pas ce qui peut arriver, parce que le médecin généraliste est pas forcément orienté sur les traitements, voilà, il renvoie vers le spécialiste et du coup ils se posent des questions mutuellement. Donc moi, ma relation avec elle, ce sont des femmes, donc c'est pour ça que je dis, se passe très très bien. J'ai pas de. Au début, c'était peut-être pas si évident parce que comme il y a eu cette errance diagnosticale, je sais pas si on dit ça.
Oui. Errance de diagnostic, errance tout de simplement. Diagnostic.
voilà, du coup, ça c'est vrai qu'au début, j'étais assez méfiante parce que j'étais un peu ballottée entre plusieurs. Diagnostic, fibromyalgie, l'obésité, enfin il y a eu beaucoup de choses et puis finalement j'ai été voir les médecins du sport, enfin moi qui étais quand même assez active aussi. Donc ça
vous étiez sportive?
Oui. Alors j'ai jamais fait de la compétition mais le sport a toujours fait partie de, du moins l'activité physique, oui, j'ai toujours été active.
Est-ce qu'on peut dire que la confiance entre un médecin et son patient, je veux dire, ça se construit? C'est quelque chose qui se... Voilà, qui se...
Oui, et je dirais que c'est assez long, parce que quand on voit le médecin pour la première fois, il faut tout redire. C'est pas toujours évident de tout réexpliquer. Donc déjà, il faut redessiner le tableau. Avant de créer un lien, c'est assez long. Moi, pour ma part, ça se fait assez longuement, mais ça se fait. C'est vrai que à force de les rencontrer, quand c'est les bonnes personnes, on finit par avoir confiance. Oui, voilà, quand on a des bons diagnostics et des bons traitements, oui, après la confiance se met en place.
Et quelle est la place du médecin traitant?
Ça, c'est difficile à dire. C'est difficile.
Pourquoi?
À dire parce que je prends une part active dans ma santé. Donc aujourd'hui, évidemment que c'est très important d'aller voir son médecin et de faire des analyses pour vérifier que le traitement ne nous détraque pas tout, etc. Mais moi, à côté, j'ai compris que c'était moi la médecin dans l'histoire, dans le sens où c'est moi qui peux agir sur ma santé, puisque je les vois une fois par an ou deux fois par an, et le reste du temps, c'est moi le matin qui dois décider de comment je vais agir pour ma santé. Donc voilà, entre guillemets, c'est moi qui... Donc voilà, il a une bonne place, mais je pense qu'il ne fait pas tout le boulot, il faut qu'on le fasse aussi.
Là, je parlais du médecin traitant plutôt, du médecin de famille qui vous suit pour les petits bobos, les petites grippes, les petites gastro. Et bien sûr que quand on a une maladie chronique, c'est effectivement la place du spécialiste est énorme. Ouais. Quoi, je veux dire,
Oui. C'est parce que la médecin généraliste, de toute façon, renvoie toujours vers la spécialiste.
Absolument.
Voilà, donc... Après, c'est oui, comme vous dites, c'est plus pour les petits bobos du quotidien.
Voilà.
Évidemment que c'est important. Quand ça se passe bien, on va la voir plus facilement. Voilà. Avant, moi, j'allais voir les médecins très, très rarement. Mais là, maintenant, j'hésite moins, justement, pour pouvoir faire en amont, peut-être faire attention plus vite. Mmh. Voilà, et je fais plus attention.
Plus réactive à ce qui à votre corps et à ce que vous ressentez et proactive.
Oui. Bah surtout avec les traitements aussi qu'on a. Je pense que le moindre petit effet secondaire, c'est important de savoir d'où ça vient et de contacter son médecin. Tout à fait.
Ok. Alors ce que je vais vous proposer, c'est une petite pause musicale. Je vous propose Amon Tobin Deo. Nous avons écouté Amon Tobin Deo. Alors nous reprenons notre entretien avec Johanna et Robert. Et d'ailleurs Robert voulait nous parler effectivement de la confiance. Johanna nous parlait de la confiance qu'on peut créer avec son médecin. Robert.
Oui, alors c'est une petite histoire qui m'est arrivée. C'est le fait que par rapport à mon pancréas, j'ai eu une urgence et j'ai été mené à l'hôpital de Val-d'Aurel à Montpellier. Et là, j'ai été consulté par un docteur qui a mis à peu près un mois pour chercher, qui n'a rien trouvé et qui m'a orienté vers un autre docteur qui lui, m'a entrepris et au bout des 5 mois, du mois de juillet au mois de novembre, a découvert ma maladie. Et depuis, qui me soigne et ça se passe très bien. Voilà.
Ah bah c'est super. Donc là, on va... comme quoi que la confiance se construit, et c'est important effectivement qu'il y ait un vrai dialogue qui se crée entre le patient et le médecin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Alors moi, ma question, c'est comment vit-on avec plusieurs pathologies pour vous, Robert, et votre pathologie, Johanna, le quotidien. Est-ce qu'on a le sentiment d'être toujours compris? Est-ce que c'est facile de parler de sa maladie? Est-ce qu'il n'y a pas toujours un peu cette incertitude, un peu cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus? Parce que la maladie chronique, je veux dire, eh ben, c'est tous les jours, c'est le quotidien qui est un peu bouleversé tous les jours. Est-ce que c'est aussi une manière aussi de se réinventer différemment? Vous, d'ailleurs, Johanna, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, justement, quand vous me disiez que vous étiez plutôt maintenant... Vous avez appris à être proactive et à réagir en avant, effectivement, donc à mieux vous connaître. Puis, est-ce qu'on vit différemment, Johanna?
On vit différemment, clairement. Il y a un avant et
il y a un après.
Y a un après. On apprend à vivre autrement. Et donc, moi, ça a été long tout ça, hein. Ça ne s'est pas fait comme ça. Hein. Mais c'est vrai que j'ai appris déjà à parler de ma maladie, oui, parce qu'au départ, à qui on parle, son mari évidemment, parce que j'ai oublié de dire que j'étais mariée, parce que le pauvre, et j'ai parlé de mes enfants, mais il est là aussi et il me soutient. Donc, déjà, en parler à son mari, voilà, c'est déjà une chose. En parler au public comme aujourd'hui,
oui, c'est une première.
C'est
pour
une
vous,
grande hein. Première, oui, tout à fait. C'est, je pense pas que j'aurais pu faire ça au début, parce que tout simplement, on n'a pas les mots, on n'a pas le recul. Enfin, moi, j'ai pas, voilà. Et ce travail-là, ben, c'est l'expérience en fait. C'est ce qu'on, voilà, c'est l'expérience de la maladie qui fait qu'on peut en parler aussi. Et enfin, moi, pour moi, c'était pas évident de le faire au départ. Donc, c'est comme ça que j'en suis venue, d'ailleurs, à l'éducation thérapeutique. Dans ma vie, je pratique l'éducation thérapeutique grâce au docteur Fabre, de la rhumatologue de Beausoleil. C'est elle qui m'a envoyée sur ses programmes et ça a bouleversé ma vie. Clairement, j'ai appris à parler, à être écoutée aussi, parce qu'on ne se sent pas toujours écouté. Et là, c'est un espace où on peut être, dans lequel on peut être écouté. Et puis, j'ai appris à en faire quelque chose aussi. Voilà, à dire, j'ai ça, je suis plus en colère, je vais en faire quelque chose. Je vais être une autre Johanna, maintenant, avec d'autres objectifs dans la vie. Une autre façon de manger, une autre façon de faire du sport, une autre façon d'être avec mes enfants aussi. Encore une fois, c'est important de le dire parce qu'on change même. Évidemment, moi j'ai toujours aimé mes enfants, mais aujourd'hui, les moments que j'ai avec eux, je les privilégie beaucoup plus qu'avant.
Ils sont beaucoup plus intenses.
Hein. Ouais, ils sont beaucoup plus intenses. Oui.
Et c'est le docteur Fabre qui vous a parlé des programmes d'éducation thérapeutique?
Tout à fait. Je ne connaissais pas avant. Et tout de suite, j'ai accepté d'aller voir par curiosité. Et tout de suite, j'ai adhéré. Et j'en ai fait un petit plus parce qu'au bout de 2-3 ans, j'ai même voulu me former au partenariat patient-soignant et devenir patient-expert. Donc voilà, aujourd'hui, je suis contente de ce parcours parce que mon objectif, c'est aussi d'écouter les autres patients et de les accompagner.
Vous êtes une experte de votre maladie alors?
Ah oui, on dit expert... parce que c'est le mot, mais de toute façon, enfin oui, c'est même expert de mon quotidien avec ma maladie, voilà, exactement. Parce que la maladie, j'en apprends encore tous les jours. On n'est jamais connaisseur à 100%. Et l'éducation thérapeutique nous permet aussi d'en apprendre plus, justement, au travers des ateliers, la connaissance sur la maladie, les traitements, les symptômes, et au travers des mots des autres patients aussi, on apprend beaucoup sur soi. C'est en écoutant aussi les autres patients parler qu'on peut comprendre ce qu'on a, ce qu'on ressent des fois, là où on ne met pas des mots forcément, là on peut, parce qu'on les entend de la part des autres. Donc on apprend sur soi, on apprend sur la maladie. Donc voilà, les ateliers, ça m'a permis tout ça.
Est-ce que c'est une manière de prendre du recul?
Ah oui, bien sûr. Oui, oui, on mûrit, hein. On mûrit. Alors, je ne sais pas s'il y avait la quarantaine qui passait par là aussi, mais on mûrit. Hein. C'est clair que moi, je pense que j'ai beaucoup changé. Ça a beaucoup changé ma vie aussi, professionnellement parlant. Hein. Évidemment, on ne fait plus les mêmes choses. On doit s'adapter aux poussées, aux moments de fatigue, adapter son quotidien. Voilà, donc actuellement, bah, du coup, je suis en reconversion professionnelle pour, voilà, pour essayer de trouver une activité qui me convient avec cette maladie.
Qui vous correspond.
Qui me correspond, oui.
Correspond plus. Et vous, Robert, par rapport au programme d'éducation thérapeutique que vous suivez?
Eh bien, moi, je les suis régulièrement depuis novembre l'année dernière. Donc,
Et ça se passe où?
Ça se passe en visio.
En visio, mais à la clinique mutualiste Beau Soleil, c'est ça?
Oui, avec. Ouais. Mais avec. Moi, je le fais en distanciel.
Vous le faites en visio, oui, parce qu'il y a la possibilité, effectivement, de les faire en présentiel, en distanciel, mais... Malheureusement, le confinement et la pandémie sont passés par là. Donc, l'année dernière, il se fait effectivement majoritairement en visio, oui.
Alors, moi, ça a été assez compliqué. Enfin, pas compliqué l'éducation, mais ça a été compliqué avec les maladies. Parce que ça a été par étapes. Et donc, j'ai eu des suivis à 15 jours, à un mois, à 3 mois. Maintenant, j'ai un suivi à peu près 6 mois avec chaque médecin. Mais pratiquement, alors comme c'est 6 mois avec chaque médecin, mais qu'il y a le cardio, il y a l'urologue, il y a l'ORL, il y a l'endocrino, l'hématologue, ça fait quand même 5. Comme c'est décalé, on va dire que presque chaque un mois et demi, je vois un docteur.
Mais à chaque pathologie, vous avez un programme d'éducation thérapeutique?
Non,
vous n'en faites qu'un seul?
Je n'en fais qu'un seul pour le diabète.
D'accord, donc c'est avec quel docteur vous le faites?
Avec le docteur Coestier.
Avec le docteur Coestier à la clinique Beau Soleil. D'accord.
Et après, les résultats. Tout se fait par... Beaucoup de diagnostics se font par les prises de sang.
D'accord.
Ça, c'est sûr. Et...
Mais au niveau des ateliers d'éducation que vous avez suivis, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté par rapport à l'ensemble de vos maladies? Qu'est-ce que ça vous a fait? Alors, du bien et, ça vous a...
Oui, ça a fait du bien. Comment vous dire? Pas pour le moral, parce que le moral, bon, c'était quelque chose à part, mais ça m'a fait du bien sur le savoir. Sur
la connaissance.
Sur les interrogations, voilà.
Oui.
Parce que...
Ça vous a rassuré?
Ah oui, beaucoup. J'étais déjà rassuré par le fait des médecins qui me soignent, qui sont quand même... Qui m'apporte beaucoup en discussion et tout, et puis en information. Mais alors là, on en a encore plus.
Et qu'est-ce que vous avez fait comme atelier d'éducation thérapeutique?
Alors, j'ai toute la liste là, mais...
Quelques-uns. Je ne voudrais pas de les citer tous, mais au moins quelques-uns.
Il y avait diabète à terre inconnu. Je cherche que ceux du diabète. Je reconnais, j'agis, je préviens.
Ce n'est pas simplement des ateliers où on parle de la maladie. Il y a aussi d'autres ateliers qui sont non médicamenteux, où on peut parler d'autres choses.
Voilà, oui. Il y en a, oui.
D'accord. Et donc vous faites les deux?
Oui,
participez aux deux.
Je vais, parce qu'il y a à peine un an, là, il y aura un an au mois de novembre, que,
oui.
Disons que je participe. Donc on va dire que je me cherche un peu.
Oui.
Les ateliers que je me sens à l'aise, que je veux participer, et puis ceux un petit peu que, pas dénigrer, mais c'est, comment vous dire, pas y aller à tous les coups, quoi, d'y aller de temps en temps pour voir, mais...
Ouais. Et donc vous sentez que de participer comme ça d'une manière assez régulière dans des ateliers, ça vous apporte un plus pour gérer...
Oui.
Pour gérer votre maladie.
Oui, oui, surtout.
Vos maladies, enfin.
Oui.
Oui.
Surtout au niveau du diabète, là, avec Mohamed, là, le patient expert.
Oui.
On apprend beaucoup parce qu'il a une grosse expérience. Puis d'autres patients, il y en a un autre aussi qui a dit que lui, il avait des problèmes de poids, qu'il n'arrivait pas à réguler sa. Son insuline, qu'il n'arrivait pas. Il y a beaucoup de patients qui sont, qui ont des questions et des inquiétudes. Et qui, le fait d'en parler et tout ça, on se dit, tiens, mais moi, c'est un peu ce qui se passe. C'est, Et ça permet de corriger, d'essayer de corriger ce qui ne va pas, quoi.
D'accord. Et Johanna, comment ça se passe quand on a envie imaginez-vous qu'il y a des personnes là, qui nous écoutent et qui ont envie effectivement de participer à... qui ne savent pas où se renseigner, qui ont envie de participer à des ateliers d'éducation thérapeutique. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les inciter, pour les convaincre d'y aller, se renseigner?
Alors moi, je dirais pour chaque spécialiste d'aller voir sur Internet, déjà, sur le, là où ils sont, s'ils ne proposent pas des programmes. Après, il y a d'autres... S'il n'y en a pas dans leur hôpitaux ou dans leur service, il y en a ailleurs. Ils sont accessibles sur Internet, sur des listes de l'éducation thérapeutique d'ailleurs. Et moi, je leur conseillerais de pas hésiter à contacter plusieurs endroits parce que, comme vous l'avez dit, grâce au... Covid, il faut bien qu'on dise les choses. Le distanciel s'est beaucoup développé et on peut un peu plus facilement accéder à, maintenant à ces ateliers en visio. Alors, est-ce qu'ils perdureront? Je l'espère, parce que ça permet quand même aux personnes qui ont une perte d'autonomie ou une mobilité réduite de chez eux de pouvoir y participer.
Ou qui sont éloignés aussi.
Ou qui sont éloignés, qui ne peuvent pas se déplacer, tout à fait. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur Internet, sinon en parler aux médecins ou à votre spécialiste qui connaissent au moins certainement un programme proche, on va dire.
Voilà. Et vous, Robert?
Moi, ça s'est passé avec le docteur Coesti, quoi, qui m'a proposé, qui m'a dit, tiens, il s'est fait ça, si ça, est-ce que ça vous intéresse?
Et qu'est-ce que vous diriez justement à des personnes qui nous écoutent et qui ont envie de participer?
Allez-y.
Allez-y. Je ne peux pas faire autrement. Ouais. Vous voyez, après, c'est une question de tempérament et tout. Moi, j'ai un peu un tempérament de fonceur. Moi, il proposait de venir. Je ne suis pas du tout fait pour la radio, même.
Ah, mais si, ça se passe très, très bien. Il n'y a pas de souci, c'est superbe. En tout cas, on arrive malheureusement, on a encore des tas de choses à dire, mais on arrive au terme de notre émission. Donc, merci, Johanna, d'avoir participé.
Merci de m'avoir invitée.
Merci, Robert.
Super, merci.
Alors, moi, je dirais deux choses pour finir. Parce qu'on a parlé, effectivement, des problèmes d'éducation thérapeutique de la clinique Beau Soleil. Donc, si vous souhaitez effectivement contacter la clinique Beau Soleil, donc par mail, etp.beausoleil@gmail.com. Sinon, le numéro de téléphone de Nadine Nadal aussi, qui est patiente experte et qui s'occupe effectivement de contacter les patients au 06 59 39 95 66. Ou sinon, vous prenez tout simplement un rendez-vous, vous vous connectez sur le site de la clinique http://languedoc-mutualiste.fr. Sinon, si effectivement vous ne trouvez pas votre bonheur à la clinique Beau Soleil, vous pouvez aussi taper monetp.fr pour rechercher un programme d'éducation thérapeutique près de chez vous. Et le site est vraiment très bien fait, on vous explique pourquoi, la démarche, pour qui, quoi, comment... Donc voilà, donc vous saurez tout sur sur l'éducation thérapeutique. Et nous nous retrouvons donc le mois prochain dans Médicalement Vôtre pour aborder un autre thème autour de la santé sur la radio 91 FM+. Merci à vous de nous avoir écoutés et bonne journée à tous et à toutes.